Je suis bien heureux de prendre des nouvelles de notre prochain invité aux amateurs de sport, un ancien du Canadien de Montréal, un ancien des Capitals de Washington, mais qui est tellement actif, il vient toujours de prendre part. Je pense que c'est une 7e fois pour lui au grand défi Pierre Lavoie. Continue de s'impliquer dans toutes sortes de programmes de hockey mineur. D'ailleurs, quand je dis toutes sortes de programmes, il y a son programme qui est appliqué dans plusieurs écoles par des éducateurs physiques. Vous avez peut-être deviné que je vous parlais de Joey Junot, l'ancien donc du Canadien. Bonsoir, Joey.
Bonsoir, Mario.
Une 7e participation au Grand Défi Pierre Lavoie. Des grosses émotions encore cette année, donc, j'imagine?
Oui, toujours. C'est toujours un beau rendez-vous. Un événement qui, pour moi, est très important. Là, quand j'ai le temps de pouvoir y participer, j'y vais. Fait que depuis mes premières années, c'était avec des jeunes du Nunavik. C'était vraiment un projet spécial à ce moment-là. J'étais aidé par Gaétan Boucher, Benoît Lamarche, et puis une autre année aussi avec Clara Hughes. On encadrait deux jeunes du Nunavik qui venaient avec nous faire ça. Après 4 ans, on a arrêté pour différentes raisons. Et puis, depuis ce temps-là, je participe au Grand Défi avec le Canadien de Montréal. Je pense que c'était au-dessus de 125 écoles primaires à travers le Québec. Alors, c'est vraiment quelque chose de grandiose.
Es-tu content d'avoir terminé ta carrière comme joueur? Ça passe vite. Je regarde ta fiche, là, je l'ai sous les yeux, Joey. Ta retraite en 2004, là, c'est comme, boum, un clin d'œil. On est en 2019, 15 ans plus tard. Mais d'avoir fini ta carrière à Montréal et surtout que tu as décidé de revenir habiter au Québec avec ta famille, veux pas, quand tu as porté le chandail du Canadien, ça permet, je pense, peut me le confirmer, un lien encore plus spécial peut-être avec la communauté québécoise. Je dis pas que c'est pas possible pour un Patrice Bergeron qui a pas joué pour le Canadien, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a comme une proximité et donc on dirait que veut pas, ben ça donne une autre dimension à toutes tes implications d'être un ancien Canadien. C'est un élément de fierté pour toi dans l'ensemble de l'œuvre?
Bah, probablement que tu as raison. C'est quand même trois années pour finir ma carrière à Montréal. C'était quand même des belles années. C'est évident pour moi comme athlète, comme hockeyeur, c'était pas les meilleures années au niveau statistique étant en fin de carrière. Mais c'était quand même trois belles années. Pas de retraite au Québec, là, et puis que tu as pu représenter le Canadien de Montréal ou dans le temps les Nordiques.
Oui.
C'est évident que ça vient. Ça vient te rattacher peut-être un peu plus, justement, avec la communauté.
Je lisais quelque chose sur ton profil Facebook, Joey, au cours des derniers jours, qui m'a interpellé parce que, clairement, tu suis l'actualité de toute nature, dont l'actualité sportive. Et il y a actuellement, je dirais pas qu'il y a une campagne, mais il y a des réactions ici au Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, face aux décisions de jeunes Québécois de poursuivre leurs études du côté des États-Unis, dans la NCAA, dans des collèges américains, dans le but d'étudier, oui, puis peut-être avec le rêve en tête de percer dans le monde du hockey. Et toi, sur ton Facebook, toi, t'es un produit du système américain, t'es allé à RPI, et donc, tu peux nous en parler de façon tout à fait éclairée, mais la conclusion à laquelle t'en arrives, moi je l'aime, puis j'aimerais ça que tu partages avec l'auditoire, c'est que pour toi, c'est pas l'institution qui va faire le joueur, si tu peux t'expliquer.
Non, du tout. Je pense qu'un joueur qui a vraiment le talent de se rendre au bout va s'y rendre. C'est à lui de trouver la meilleure route pour lui en tant qu'individu, en tant qu'athlète, en tant que hockeyeur. Et puis, dans mon cas, moi, ben, en sortant du midget 3A, à l'époque, il y avait dans le milieu des années 80, il y avait la Ligue collégiale 3. Alors, c'était devenu vraiment une très belle ligue de hockey. Et puis, pour nous, de pouvoir jouer dans cette ligue-là, ça faisait en sorte qu'on jouait un petit peu moins de parties. C'était peut-être même la moitié des parties qu'on jouait junior majeur. Mais ça nous laissait la chance d'aller vers les États-Unis éventuellement. Ça, tu l'as plus. Aussitôt que tu vas passer, je pense, c'est 24 heures ou 48 heures, là, je me rappelle plus exactement, junior, ben ça se ferme, OK? Fait que à un moment donné, à 16 ans, c'est difficile de prendre les bonnes décisions toujours. Alors pour moi, je me disais, bon, le collégial 3A ne fonctionne pas. Tu peux toujours revenir en arrière puis opté pour d'autres choses, mais l'inverse n'était pas vrai. T'sais. Mais de toute façon, pour moi, je veux dire, pour moi et d'autres, là, on était quand même plusieurs à l'époque dans notre équipe Midget 3 qui avait décidé d'aller vers le collégial, mais c'est ça, probablement qu'on était une cohorte un peu spéciale, des jeunes qui avaient un intérêt d'étudier et puis de faire un parcours dans le hockey un petit peu différent de ce qui était offert à l'élite, si on peut dire. Et puis, ben aujourd'hui, moi, je referai la même chose demain, là, c'est évident.
Vous avez eu deux filles, ta conjointe et toi, sauf erreur, Joey. Mais si tu avais eu un garçon aujourd'hui, là, dans les années qu'on vit, qui aurait été placé face à un tel choix, est-ce que tu lui aurais recommandé de suivre tes traces et d'aller du côté? Quoique toi, c'est un cheminement partagé. Tu as évolué une partie de ton séjour dans le collégial 3, comme tu l'as dit. Mais est-ce que tu tenterais de convaincre ton garçon d'aller aux États-Unis ou de jouer et d'étudier dans le hockey junior majeur québécois?
Ben ça dépend. Ça dépend. Si mettons, mon garçon était comme moi avec beaucoup d'intérêt à aller apprendre, à aller à l'école et tout. T'sais. Moi, qu'est-ce que je pense vraiment là-dedans, c'est que la Ligue de hockey junior majeur du Québec ou les autres ligues semblables à travers le Canada, ils ont une raison d'être là. Et puis, il y a une clientèle qui a vraiment besoin de ces ligues-là à travers le pays. Ceci dit, il y a de nombreux jeunes qui pour eux, moi, je pense que la meilleure route, c'est l'inverse. C'est la meilleure route, c'est d'aller plutôt au collégial et universitaire. Mm-hmm. Alors, si j'avais un garçon qui était dans la même situation que moi et puis qui avait les mêmes aptitudes, les mêmes intérêts, c'est évident que pour moi, je lui recommanderais d'aller vers la route universitaire. Je trouve ça dommage. En même temps, c'est pas comme si je connais profondément la situation du hockey universitaire et collégial au Québec, mais je trouve très dommage aujourd'hui, en 2019, qu'on soit pas encore plus développé, considérant qu'est-ce qui avait été fait à l'époque. C'est quoi? J'ai passé en 85 et 86 collégial 3A. Puis on voyait qu'il y avait vraiment quelque chose de fantastique qui se développait, qui venait offrir une autre voie très intéressante pour les jeunes qui voulaient se développer dans un cadre académique.
Et on sent une certaine pression, avouée ou non avouée, là, des équipes qui veulent pas qu'un joueur talentueux traverse de l'autre bord de la frontière parce que tu veux la meilleure équipe possible avec le meilleur talent possible. Je sais pas s'il y en a qui t'avaient fait la baboune dans le temps, jouer quand tu avais traversé.
Ah ben oui, c'est... ça me fait rire encore aujourd'hui parce que moi je restais en pension à Lévis-Lauzon et puis c'était pas rare là, les semaines que le téléphone sonnait et puis que c'était quelqu'un de l'équipe qui m'avait repêché ou je pense qu'éventuellement Hall avait fait un échange pour venir me chercher et puis où voulait le faire. Alors, ça téléphonait à la maison. Puis, à un moment donné, on m'avait même demandé si j'accepterais que Wayne Gretzky m'appelle parce qu'il était d'un propriétaire de Hull. J'avais dit, ça serait fantastique de parler à Wayne Gretzky, c'est mon idole, mais ça changera rien. il a jamais appelé. Mais c'est ça, oui. Il y a eu beaucoup de pression. Je trouve ça dommage, ça, encore aujourd'hui, qu'on respecte pas plus le choix d'un jeune ou de sa famille là, d'aller vers le collégial. Quand un jeune affiche ses couleurs, on devrait le laisser tranquille et lui souhaiter bonne chance.
Joey, on est tout près de la fin de l'entretien, puis on demande souvent aux gens salut, comment ça va? Comme je l'ai peut-être fait même en début d'entretien, mais permets-moi de te le redemander en fin d'entretien, parce que je sais pas si les gens le savent, mais ta famille et toi avaient été éprouvés par un incendie qui a complètement détruit, à part le foyer qui reste, j'ai vu la photo récemment au milieu, complètement détruit votre résidence du lac Sept-Îles à Saint-Raymond de Portneuf. Alors, j'ai envie de te demander comment ça va après cette tragédie-là?
Bon, aujourd'hui, ça va mieux. C'est évident que bon, les semaines et les mois ont passé et puis tourner la page, trouver les bonnes façons de regarder ça, de faire face et de passer à autre chose. C'est évident que c'est beaucoup, beaucoup de choses très importantes pour nous qui puis sont partis en flammes. On a quand même passé 20 ans là, de notre vie en famille dans cette maison-là. Mais quand même, on se retrouve aujourd'hui, tout le monde est en vie encore. Et puis, il y a des situations, il y a des gens qui vivent des situations pas mal pires que la nôtre aussi. Alors, quand tu regardes alentour un peu, puis tu dis, bon, ben en bout de ligne, t'as perdu une maison, t'as perdu plein de choses. Oui, ça fait mal, mais ta situation est quand même pas mal mieux que beaucoup de gens. Alors, nous, on a encore la santé, on est encore en vie, puis... on tourne la page, on pense à d'autres choses, c'est tout.
Étiez-vous à l'extérieur quand c'est survenu, Joey? Est-ce que quelqu'un était menacé? Étiez-vous dans le coin?
Ma conjointe et moi, on était... En fait, moi, je dormais. Alors, j'ai été réveillé par l'odeur et le bruit et tout, et puis...
Wow! Ça aurait pu être bien pire, comme tu dis, là.
Oui, c'est exactement. Puis tu dis, bon, à un moment donné, t'es comme dehors, en plein hiver, tu regardes ça brûler, t'attends que les pompiers arrivent, puis tu dis, tu rentres dessus, t'essayes-tu d'aller chercher des choses et tout, puis en bout de ligne, tu dis, bon, regarde, c'est bien correct, on n'a pas risqué ça, puis on s'est fait dire par plusieurs personnes qu'on a bien fait. C'est là que les accidents arrivent, les gens se mettent à retourner dans la maison. Des fois, c'est pour des raisons qui sont peut-être plus importantes, là. Alors ça, on l'a pas fait, et c'est ça qui a fait en sorte peut-être que rien de mal est arrivé.
Est arrivé, ouais. J'ai vu qu'à travers le processus de deuil que vous avez entrepris après l'incendie, le deuil de perdre beaucoup d'objets puis de perdre votre maison, moi je t'ai trouvé quand même, j'ai trouvé que tu avais une attitude incroyable, puis j'ai jamais douté de ta force mentale. T'es sans doute un leader dans la vie, puis sans doute un leader pour ta famille, mais de voir l'attitude que tu affichais quand tu retrouvais des souvenirs en faisant le ménage dans les braises une fois que tout ça s'est éteint. Est-ce que tu as eu des petits pincements au cœur de retrouver des souvenirs qui étaient intacts? J'ai vu même que tu avais un bobolette d'André Markov qui avait résisté à l'incendie. C'était comique, même dans quelque chose qui était tragique, hein?
Ouais, ben c'est ça. Au lendemain de l'incendie, bon, c'est sûr, on est encore comme en hiver à ce moment-là, et puis il y a eu encore des précipitations de neige, et puis c'était vraiment un gros dégât. Alors, à ce moment-là, il n'y avait rien à faire. Puis, c'était vraiment pas le fun de retourner sur les lieux.
Sans doute.
Alors, ça a été plusieurs semaines d'attente. Et puis, à travers ça, on a eu énormément d'amis qui nous contactaient pour nous offrir de l'aide. Et puis, à un moment donné, on s'est dit que quand le printemps est arrivé, tout la neige a fondu. Puis on s'est dit, crime, pourquoi qu'on n'organise pas? Parce qu'on voulait... On voulait absolument voir s'il y avait des choses à retrouver là-dedans. En même temps, c'est quand tu regardais les lieux, ça portait pas confiance, mais on voulait quand même le faire. On pouvait pas dire que une appel mécanique est venu avec des trucks, puis ils ont ramassé, puis sont partis. Tu sais. Alors j'ai loué une appel mécanique moi-même, et puis on a eu, on devait être 40-50 personnes à travers trois journées de travail là, qui sont venues, des amis, sur les lieux pour donner une grosse corvée. Puis c'est quelque chose qui a été le fun à faire dans le sens que on avait plein de monde qu'on aimait avec nous pour le faire. Et puis ensemble, en équipe, on a été capable de piocher là-dedans, et puis à chaque fois qu'on sortait une pelle, ben on pouvait voir, bon, y a-t-il des affaires, mais c'est comme ça qu'on a réussi à retrouver certains objets. Alors quand le tout est comme parti vraiment vers les sites de recyclage ou d'enfouissement ou peu importe, on avait pu faire cet exercice-là c'était quand même un bon 4-5 jours de travail, mais ça en valait la peine. Ça nous a permis de retrouver certaines choses. C'est pas rien, non.
Ben Joey, donc là, je sais que tu es dans le déménagement, avant un petit voyage en famille. Alors, bon courage à travers tout ça. Tu en as fait preuve déjà. Je suis vraiment content de t'avoir parlé, puis je suis convaincu que je parle au nom de nos auditeurs, aux amateurs de sport, Joey.
Ben, je te remercie beaucoup. C'est toujours plaisant, toujours le fun de se parler. Puis Ben, à la prochaine. Je te souhaite un bel été en passant.
Ben, toi aussi, au plaisir. Je sais pas si tu voles au-dessus de chez nous, fais aller tes ailes.
OK.
Salut, Joël.
Salut, Mario.
Merci beaucoup.